Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Mon invité s'appelle Dominique Lelong. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Vous vous appelez Dominique Lelong depuis combien de temps?
Non, je ne m'appelle pas Dominique Lelong.
Bah si, vous vous êtes appelé Dominique Lelong.
Oui, c'était un pseudonyme que j'avais pris.
Anne Romanoff, bonsoir Anne.
Bonsoir.
Pourquoi vous avez pris un pseudonyme?
Parce que quand j'étais au Blanc Manteau et que j'étais jeune comique, débutante, je n'avais pas d'attaché de presse. Donc j'étais moi-même ma propre attachée de presse.
Ah, vous appeliez les journalistes avec ce pseudonyme.
Voilà, je disais bonjour Dominique Lelong, l'appareil. Je suis l'attachée de presse d'Anne Romanoff qui joue actuellement au Blanc Manteau. Est-ce que vous aimeriez venir la voir, tatati?
J'ai fait le boulot d'attachée
de presse. À l'époque, il n'y avait pas tellement de comiques en fait, et peut-être pas tellement d'attachée de presse, donc j'arrivais assez à faire venir des gens. Et après, les gens me disaient, vous serez là pour m'accueillir? Je dis, ah mais non, malheureusement. Un empêchement.
J'ai un autre artiste.
Et bon, alors après, je rappelais les gens, je disais bonjour, c'est Dominique Lelong, qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? Et donc un jour, un mec m'a dit, écoutez, absolument aucun intérêt.
J'ai dit,
mais je peux vous demander pourquoi? Écoutez, elle n'articule pas, et puis je sais pas quoi, c'était...
Sauf que
mais
ça dure...
à part ça, il y a eu aussi des gens qui trouvaient ça bien. Quoi, même.
Sauf que ça dure depuis 30 ans, hein, il s'est planté le journaliste. Il faudrait lui rappeler que 30 ans, ça se construit, 30 ans, ça se vit, 30 ans, c'est une proposition auprès du public, avec des doutes, avec des rires, et puis surtout avec un lien qui est pour vous indispensable. C'est-à-dire qu'au-delà de la radio, vous êtes sur Europe 1, vous écrivez dans le journal du dimanche, vous passez à la télé, mais la scène, c'est le moment de vérité pour vous.
Oui,
depuis
c'est
toutes
le moment où j'ai le plus de plaisir d'ailleurs.
Ouais.
Parce que c'est... Même après toutes ces années, j'ai pas de lassitude sur scène. Quand j'arrive, il y a un côté où je suis fatiguée, je me régénère. Hier, j'avais une ampoule, je suis montée sur scène, j'avais oublié de mettre le pansement. J'ai pas du tout eu mal, et dès que je suis sortie, j'ai re-eu mal, quoi.
Et vous prenez comme ça des jets de rire, des vagues.
D'énergie, en fait,
d'énergie.
C'est un échange. Ouais. Je fais rire, mais je reçois de l'énergie du public. Donc, par contre, ce qui me fatigue beaucoup, c'est les autographes après, même.
Ouais. Mais vous le faites quand même.
Oui, mais j'ai parlé à des gens, des énergéticiens, ils me disent il faut que tu te mettes une carapace transparente, mais j'arrive pas du tout. Peut-être je sors de scène fatiguée, mais alors les autographes, et quand les gens commencent à me toucher après un spectacle,
Pourtant vous aimez les gens.
Oui, mais j'aime pas qu'on me touche. Ouais. Ben surtout, non, mais après un spectacle, alors vraiment. Et les gens, ils veulent me toucher, ils me prennent le bras. Et moi, je suis hyper... je sais pas, sensible, je ressens les gens,
l'énergie.
Ouais, c'est ça.
Et puis on est à fleur de peau quand on sort de scène, j'imagine aussi.
Pas fleur de peau, on est content, mais voilà, je veux bien faire des autographes, mais je veux pas qu'on me touche.
Alors, comment voulez-vous que les gens ne vous touchent pas, Anne Romanoff, quand vous faites partie de leur vie? Non seulement parce que 30 ans, voilà, c'est assez important, il y a des générations qui commencent à vous suivre, mais parce qu'ils vous lisent, vous publiez, tiens, justement, le best-of Romanoff, un petit livre aux éditions Tut Tut avec vos pensées. Qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition Tut Tut?
Depuis tout à l'heure, je pensais... C'est pas de ma faute, c'est le nom de la maison.
Tut Tut.
En fait, c'est un livre qui est paru au Cherche-Midi, d'accord? Dans la collection Pensées, répliques, anecdotes. C'est une collection très prestigieuse où il y a des proches, Coluche, Sacha Guitry. La première femme à rentrer dans cette édition. Et ils ont fait une édition de poche et ils m'ont dit on a une proposition des éditions Tut Tut. Ben, j'ai dit c'est très bien. J'allais pas te dire ben non, le nom est. Au moins on le retient.
J'en prends une au hasard. Rumeur. Les gens peu importants espèrent toujours prendre de l'importance en répandant des rumeurs ayant peu d'importance sur des gens importants. Vous passez à travers tout ça.
Mon téléphone, je suis très désolée.
C'est peut-être les éditions Tut Tut qui vous...
Ils ont dit, comment vous parlez de nous?
La rumeur, vous êtes toujours passée à travers?
Voilà, rumeur...
Quand on est public...
J'ai pas une vie privée non plus, j'ai pas 15 000 amants.
Oui.
Donc j'ai pas... Je suis pas poursuivie.
Non mais la rumeur médiatique, est-ce qu'elle va faire cette année? Elle va être où, etc. Vous tracez votre chemin, j'ai l'impression.
Enfin, je touche du bois, mais j'ai plutôt échappé à ça. Et puis après, j'ai quand même été toujours assez attentive à pas m'exhiber, mais après, mais voilà.
Il faut pas que ce soit gratuit, il faut que ça ait du sens, voilà. Voilà.
On essaye, après, il faut aussi que les gens parlent de vous aussi, donc après, si on donne rien, on montre rien,
Vous êtes chez moi pour tout montrer,
justement. Je vais me déshabiller, Nico,
attention. Oui, on va commencer par effeuiller vos souvenirs musicaux. On est en 1974, c'est une chanson qui est chantée en espagnol, qui est un tube mondial, et je le vois dans la playlist que vous avez choisie, c'est « Por qué te vas ?» C'est Jeannette qui chante ça. Pourquoi?
Ben, je sais pas, c'est une chanson de la préadolescence. En 74, j'ai 9 ans. Je sais pas, j'avais une copine qui était plus vieille que moi et elle me fascinait. Elle m'a fait découvrir le McDo. J'étais au McDo, je trouvais ça tellement à la mode.
Dans les années 70, ouais, c'est ouais, l'évolution.
On jouait au secrétaire aussi. Elle avait 2 ans de plus que moi. Et c'était la fille des meilleures amies de mes parents, elle s'appelait Emmanuelle. Et on jouait, alors on faisait semblant qu'on était secrétaire dans un journal. Et on jouait des heures, on répondait. Mais donc, c'était. Et en fait, mes meilleurs souvenirs d'enfance sont des souvenirs de jeux. Il y avait aussi en Normandie, à la campagne, on n'avait pas de télé. Il y avait mes frères et mes sœurs, j'étais l'aînée. Et j'avais des jeux aussi où je dirigeais tout le monde. Alors, soit on était marchande et on vendait des trucs. Et moi, au début du jeu, on avait toujours autant d'argent. Et après, moi, je les arnaquais. C'est, je terminais plus riche. Et ça nous occupait des heures. Alors, on avait, je sais pas, oui, cet âge-là, 8, 7, 8, 9 ans. Mais c'est des souvenirs. Mais moi, j'étais à fond. C'est-à-dire, je sais pas si je faisais la différence entre la réalité. Enfin,
jouiez déjà, en fait.
Ouais, mais j'aimais ça, ce côté. D'imaginer un truc un peu irréel, quoi.
Et la chanson que vous avez choisie nous replonge dans cette insouciance de
c'est
l'enfance.
Pas vraiment l'insouciance, justement. Cette chanson, elle est assez dramatique. Et puis, je me rappelle du film aussi. C'était sur une petite fille qui était mal dans sa peau. Enfin, tout ça. Mais j'avais beaucoup aimé ce film.
Cria Cuervos, le film. Et en fait, la chanson, quand elle est sortie en 1974, c'était l'indifférence totale. Et grâce au film, elle est devenue un succès et un tube mondial.
Et j'ai été fière d'avoir ce film au cinéma parce qu'il était interdit au moins de 13 ans et j'avais 11 ans.
De 17h à 18h sur Europe 1, De quoi j'ai l'air.
Porque te vas, Jeannette, 1974, ça nous replonge en enfance. C'est le choix de mon invité Anne Roumanoff ce soir sur Europe 1. Anne Roumanoff écrit dans son ouvrage Best of Roumanoff aux éditions Tut Tut, réussir pour coucher, il y en a qui couchent pour réussir, moi j'ai réussi pour pouvoir coucher. Vous vous souvenez de votre première boom? J'allais pas dire de votre
première.
Oui, j'ai pas osé le faire,
ah
mais bon.
Non, bah heureusement, j'espère.
Le premier flirt.
Flirt ou ouais. Boom? Parce que la première boom, j'ai pas flirté.
Crac-crac, éventuellement. Alors... Oui. Ah, sur un malentendu.
La boom, c'était quand j'avais 12 ans, je pense, en quatrième. Je crois que j'en avais organisé une. Et bon, il s'était rien passé, mais on était dans le noir. Il y en avait qui jouaient au jeu des allumettes. Enfin, non, c'était...
Vous la facette ou pas?
Non, pas boule à facettes, mais...
Petit vermouth.
Non, non plus, non, pas, non 12 plus. Ans, non, pas petit vermouth.
Vous étiez comment? Quel genre de look?
Un look indéterminé, on va dire. Ouais. J'étais très un mouton, c'est-à-dire je suivais
vous
les
suiviez.
Modes. Ouais, donc, bah, 12... j'ai eu la période sabots, les sabots, vous savez, ouais, pas se laver. Et
la
une copine m'a dit, mais en fait, t'es baba cool. Je fais, mais non, mais je me lavais pas de la semaine, quand même. Ouais. Donc après, il y a eu une période minette, c'était Jess, vous savez. C'était une boutique, on avait des mocassins indiens, c'est quand j'avais 15 ans, des foulards indiens, du scooter, enfin voilà, ouais. Ça, c'était ça. Entre-temps, j'ai eu la période Léal, c'était la mode des punks, vous savez, la boîte rose bonbon, tout ça.
Vous avez été
Non, j'ai pas été, mais j'avais une copine qui avait un groupe. Alors, j'allais pas, mais j'avais été acheter une veste toile qui était une veste d'homme taille 56 qui m'arrivait au genou. Ouais. Je me sentais très très à la mode.
Vous cherchiez quand même.
J'avais des espèces de boots pointues arches grises qui étaient pas très jolies, mais ça allait avec le côté avachi de la veste. Voilà, et après je suis rentrée à Sciences Po, donc j'avais 17 ans. Alors là, changement radical de look, parce que je suis passée de la petite minette avec le mocassin indien, les foulards indiens. Le foulard indien rouge, vous voyez, avec le bandana, en fait.
Je vois totalement.
On allait danser
rouge déjà.
Main jaune, voilà. Et là, je suis passée à Sciences Po, et là, c'était hyper BCBG. Donc là, je me suis acheté un impair Burberry's, un collier de perles aux prises uniques, et un petit foulard imitation Hermès, voilà. Et un serre-tête en velours.
Et une chanson d'amour de cette période, une chanson de, je sais pas, d'un coup de cœur, d'un fiancé de l'époque, que vous écoutiez en boucle sur un radiocassette.
Il y avait Tiamo et aussi la chanson de la Boom. Alors ça c'était... J'adorais cette chanson.
Il y a eu une histoire là-dessus.
Non, il n'y en a pas eu, mais moi, j'ai beaucoup rêvé.
Le choix d'Anne Romanoff, invité de Nikos Aliagas, c'était la Boum sur Europe 1.
Dans votre dernier ouvrage, Anne Romanoff, vous écrivez « À 12 ans, je trouve toute seule l'adresse du cours Simon dans les pages jaunes. Une vieille comédienne délicieuse m'accueille. J'ai des longs cheveux châtains et je me prends très au sérieux. Et le professeur est catégorique. Vous êtes faite pour jouer Athalie de Racine et Anne Frank. »
J'ai commencé à prendre des cours de théâtre parce que l'été d'avant, devant des amis, des parents, j'avais imité Sylvie Joly. On m'avait dit tu devrais prendre des cours de théâtre, mais je suis arrivée dans le cours de théâtre sans idée préconçue et j'avais un physique de jeune première, un peu romantique, on va dire, avec des longs cheveux, des yeux marrons. Puis à 12 ans, 13 ans, on se prend très au sérieux quand même. Donc je pense pas que l'humour, ça se voyait que j'étais drôle, je crois pas.
Ça s'est passé quand le switch, enfin le changement.
En fait, j'ai beaucoup travaillé Anne Frank. Mais vraiment avec acharnement. Regarde Peter, le ciel.
Oui, vous vous souvenez, vous êtes là.
Oui. Quelle belle journée. Je jouais pas très bien, quoi. Et non, il n'y a pas eu de switch, en fait. Donc je travaillais des choses assez tragiques dans les cours de théâtre. J'ai fait le cours théâtre Simon enfant, adolescent, après cours Florent, adolescent. Je sais pas, je pense que... Un jour, j'ai refait des sketchs. Enfin, en fait, quand j'avais 15 ans, quand on m'a demandé de faire des sketchs, la famille, je disais non, j'ai arrêté les sketchs.
Mais vous aviez déjà la vis comica, c'est vous qui faisiez rire à table, c'est vous qui étiez avec la copine
rire,
d'enfance.
Faire rire, je sais pas, non, parce qu'en fait, j'étais assez insolente et en classe aussi. Alors, donc, je me rappelle en classe, quand j'étais en quatrième, j'étais bonne élève, mais j'aimais bien me mettre au fond de la classe, provoquer le prof.
Pourquoi?
Surtout. Je sais, provoquer le prof. Parce qu'en fait, quand je me mettais au fond de la classe, je disais, monsieur, je suis pas d'accord, tout le monde se retournait vers moi.
Vous existiez, en fait.
Ouais, j'avais toujours une espèce de soif comme ça. Donc je disais, monsieur, je suis pas d'accord. Et donc je contestais les profs. Donc des fois, je faisais rire la classe, mais des fois, pas forcément. Mais c'était plus le but de déstabiliser l'autorité du prof. Par exemple, je me rappelle d'un prof qui avait dit, oui, quand on voit ces femmes dans les transports en commun, qui lisent les programmes télé, j'ai dit, monsieur, pour affirmer ça, vous basez sur une observation personnelle ou sur des statistiques?
Direct.
Ouais, clac.
Direct.
Et les mecs, c'est comme
en
ça.
Fait, comédienne déjà, parce que même là, c'était un rôle.
Et j'étais bavarde aussi. Ouais, donc, surtout, tous les bulletins scolaires, il y a écrit.
Bavarde.
Trop bavarde. Oui. Ouais,
bonne élève, mais bavarde.
Trop bavarde. Dissipée un peu.
Pourquoi Charles Aznavour et les comédiens?
Parce que ça me. Cette chanson, c'est un peu le côté que j'ai plus maintenant, mais que j'ai beaucoup eu dans mon adolescence, de la famille des comédiens. Je voulais appartenir à cette famille. Et pendant des années, j'étais dans tous mes états. S'il y avait des gens de théâtre, et l'expression « les gens du métier », tout ça maintenant ne me fait absolument plus rien. J'ai compris le côté vain de ces expressions, les détestations de ce métier, les faux-semblants, les hypocrisies. Mais à l'époque...
Mais vous n'êtes pas blasé pour autant.
Ah non, je ne suis pas blasé pour autant, mais voilà, à cette époque-là, j'ai une espèce de sentimentalisme d'être actrice, de faire du théâtre, de la famille du spectacle, alors qu'en fait c'est tout sauf une famille. Quoi.
Charles Aznavour, Les Comédiens, 1962 sur Europe 1.
De 17h à 18h sur Europe 1.
De quoi j'ai l'air?
De quoi j'ai l'air?
Présenté par Nikos Aliagas.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent.
Charles Aznavour avec Les Comédiens, le choix d'Anne Romanoff, invité de Nikos Aliagas, jusqu'à 18h dans De quoi j'ai l'air. A tout de suite sur Europe 1.
Anne Romanoff, expliquez-moi pourquoi il y a Black M dans votre playlist. Je suis chez moi, il vous aime bien.
Bah, en fait, c'est parce que il m'a proposé de jouer dans son clip, parce que je l'avais soutenu au moment de l'histoire de Verdun, où son concert avait été annulé sous la pression du Front National. Et voilà, j'aime beaucoup cette chanson, parce que contre quelque chose d'agressif qu'il a reçu, je trouve qu'il a transformé ça dans une chanson très positive, qui n'est pas haineuse, qui dit juste que voilà, qu'il est chez lui et
qu'il est heureux d'être français.
Voilà, et donc il y a une espèce de joie de vivre dans cette chanson auquel je suis sensible. Alors évidemment, ça résout pas tous les problèmes de la terre, mais voilà. Et puis j'aime bien la personne. Je trouve qu'il a beaucoup de gentillesse, d'humanité, de sensibilité.
Vos filles étaient contentes ?
Oui, tout à fait. Ma fille plus petite écoute beaucoup de rap. Alors elle, son dieu sur la terre, c'est Nekfeu.
Ouais, mais fallait inviter Nekfeu.
Ben oui, mais je sais pas, il fait plus d'émissions. J'ai essayé d'inviter Nekfeu pour faire plaisir à ma fille.
On va vous le trouver, vous le trouver. Je suis chez moi, Black M, le choix musical d'Anne Romanoff. Si vous êtes dans les embouteillages, bon courage, on pense à vous et on vous accompagne en musique.
Tout le monde me regarde, à travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde de haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée.
Black M 2016, je suis chez moi. Un petit clin d'œil à Black M.
C'était drôle aussi avec cette chanson, c'est que je me suis retrouvée à Taratata.
C'est-à-dire quand vous même... vous êtes retrouvée Anne Romanoff à Taratata?
Parce que vous savez, quand même, je chante faux, je danse pas en rythme. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit on fait Taratata. J'ai dit non, mais vous rigolez. Si, si, mais il y a des gens qui sont pas chanteurs, ce serait rigolo. Et je me retrouve quand même sur le truc. Black M, soprano, Manu Dibango. J'étais là, j'étais waouh. Et j'ai dit au mec, fermez mon micro pendant que parce que moi, je chante.
Je ferai du playback.
Mais non, parce que je chante vraiment fou, puis je voulais pas gâcher la prise.
Vous êtes fasciné par les
artistes. Et après, il a fallu que je danse. Et au début, je me suis dit. Et puis après, quand on a fait 3 prises à la fin, je me suis laissé aller. Et bon,
mais ça, il y a au début de votre carrière, où dès que la notoriété est arrivée, vous l'auriez pas fait aussi facilement. C'est
non, non, là, je me suis dit.
J'ai l'impression que vous êtes.
Bah là,
cool,
je me suis
encore,
dit, j'ai 50 ans, c'est trop de délire de montrer. Voilà. À Taratata avec Black M et Soprano, allons-y, amusons-nous.
Et puis les gamins derrière, grands fans, quoi. C'est exceptionnel. Quel est l'artiste que vous avez rencontré qui vous a impressionné le plus? Chanteur, j'entends.
Michael Jackson, je pense.
Michael Jackson.
Ouais. Parce qu'en fait, mon mari s'occupait du mime Marceau et Michael Jackson, c'était il y a très longtemps, il était intronisé au Grévin et donc il était invité, on a été invité du coup à cause de ça, à cause du mime Marceau qui était là parce que c'est lui qui avait appris le moonwalk. Donc, il y a tout un film sur Michael Jackson, il y a le machin, il y a sa statue. Et après, il y a une cérémonie dans les couloirs du Grévin.
Ah, il était vraiment là? Je pensais que vous aviez rencontré la statue. Comme
non,
vous
mais
dit.
Non, mais non.
Et alors, il était comment, Jackson?
Alors, non, non. En fait, bah, il était timide, hein, je pense, mais je ne lui ai pas parlé, en fait. Et il y a le directeur, il y a le mime Marceau qui me présente à Michael Jackson. It is a French machin, un truc. Donc, il me salue comme ça, de la tête. En et 83. Deux secondes après... Il y a le directeur du Grévin qui dit qu'il va voir Michael Jackson en disant « You know it is a French artist ». Donc, parce que j'avais joué au Grévin, je m'entends bien. Et donc le Michael Jackson a dû croire que j'étais très importante. Et il met ses mains comme ça et il s'incline devant moi.
Extraordinaire, faut prendre
la photo. Maintenant, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de portable à l'époque. Dommage. Mais c'était un truc, c'était hyper rigolo, quoi. Mmh. Et puis moi, 6 ans d'anglais, la seule chose que j'étais capable de dire, c'était « Hi ».
Parfois, ça suffit. Billie Jean, pour vous. Hommage à Michael Jackson, grand fan d'Anne Romanoff. C'est comme ça que la rumeur prend. Voilà, il suffit de
Par
commencer.
Contre, quand on est sorti du Grévin, il y avait tous les fans qui attendaient Michael Jackson, qui étaient en état hystérique, et j'ai vu ce que ça faisait de l'intérieur. Et je me suis dit, mon
C'est
Dieu,
violent.
Ça doit être très très difficile de rester normal.
Michael Jackson, extrait de l'album Thriller, Billie Jean, 1983. Anne Romanoff est aux commandes ce soir de la programmation musicale avec Laurent Voulzy, Rock Collection, on est en 1977. Vous écoutiez ce titre au lycée?
Mais j'ai adoré ce titre, j'avais 12 ans. Et puis je m'identifiais, je connaissais les paroles par cœur, j'étais déjà très sensible au texte. Et puis... une petite fille oubliée, jupe plissée queue de cheval à la sortie du lycée.
C'est vous ?
Oui, je me suis dit, cette chanson, c'est moi.
Vous l'avez dit à vous,
et c'était mes oui, je lui ai dit. Et c'était vraiment mes premières booms. Alors pour le coup, c'était vraiment l'âge, voilà, cette époque-là. Et en plus, il y a plein de tubes, en fait, dans cette chanson.
C'est un pot pourri de ce
Et j'aimais beaucoup
aussi.
Au Camping des Foulbleus, je me traîne une tonne de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare.
Ouais.
Tout ça. Et Donovan chantait. Quand elle m'a rasé la boule à zéro... non, j'aimais beaucoup ce que ça évoquait, je sais pas, ça m'a beaucoup touché cette chanson.
C'est comme des petites scènes de théâtre, comme
ouais,
ça, comme un film
ça.
Qui défilait en musique avec le talent
je
de Laurent.
Je crois qu'il
Voulzy.
A pas du tout gagné d'argent parce qu'en fait il a eu plein de procès parce qu'il avait.
Ils l'ont tous attaqué derrière.
Ouais, c'est ça.
La version intégrale de cette chanson signée Voulzy Souchon dure 11 minutes.
Oui, mais j'avais le
et 45
c'était,
secondes.
Le 3, un maxi 45 tours. Absolument, j'avais.
On l'a dit ensemble. Musique.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval. Sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait.
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 Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing. Échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les
his knife, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Yeah. Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait
round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around.
Get around,
get around,
get around.
On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo, et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping du flou bleu, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait,
et Saint-Malo dormait,
et les radios chantaient. Qui me colle encore au cœur et au corps.
Gloria,
do you know where I am?
Gloria,
do you know where I am?
Gloria, Gloria.
Au café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy. Ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues et les loups.
Laurent Voulzy, Rock Collection, année lycée de notre invité Anne Roumanoff. Qui vous a aidé au début, Anne Roumanoff? Est-ce que des artistes vous ont tendu la main, ou vous ont accueilli, écouté, conseillé?
Alors, est-ce que vous avez eu des mentors? Non, mais quand même, les gens sur ma route qui m'ont aidé. Alors, il y a quand même eu Laurent Ruquier, qui m'a engagé dans Rien à cirer sur France Inter en 91. Donc
ça ne s'oublie pas.
Non, et puis c'était vraiment une belle aventure. C'est lui qui m'a fait faire de la radio en premier. On a quelque part un peu débuté ensemble, parce que lui, il avait peut-être un an de radio de plus que moi. Mais donc c'était, oui, c'était une bonne, très bonne expérience. Après, je dirais, qui m'a aidé, Philippe Bouvard, qui m'a pris à Bobino. C'était quand même pas non plus le moindre. Voilà. Et ça a été aussi. J'ai joué longtemps à Bobino, ça s'est très bien passé. Michel Drucker qui m'a engagé
à la télévision.
Voilà, donc ça c'est et puis en premier aussi avant Laurent Ruquier, Guy Lux qui m'a engagé à la classe en 87 et qui m'a fait passer pour je suis passée à la télé vraiment il y avait une audition très ouverte à la mairie du 13e, il y avait 200 comiques, des imitateurs, voilà, des ventriloques de toute la France, et il m'a pris. Moi j'étais ah bon, vous me prenez? Mais vous êtes sûr? J'étais hyper étonnée parce que c'est la première fois qu'on voulait bien de moi quelque part. Mais donc j'ai quand même eu ces hommes-là qui ont été et aussi et bien sûr Jean-Claude Brialy qui m'a pris aussi au Bouffe Parisien à une époque où j'étais peut-être un petit peu moins considérée à la et juste avant de mourir d'ailleurs, peut-être un an avant sa mort. Et ça a été aussi le fait qu'il m'ouvre les portes du Bouffe Parisien où je suis restée 2 ans ou 3 ans, ça a été aussi une...
T'as donné un autre cachet.
Ouais, voilà, c'est ça, donc j'ai quand même eu ces hommes là qui ont été
des seigneurs.
Et des hommes, si on les regarde tous, qui est Lux, Ruquier, Drucker, Bouvard, c'est tous des... Oui, en effet, c'est des seigneurs de ce métier, on va dire. C'est des gens qui ont... qui m'ont aidé, mais pas non plus d'une manière ostensible, en disant « Ah bah, je t'ai aidé, hein, t'as vu que je t'ai aidé ?»
Ouais,
non, non, ça a
discret.
Été, mais ça a été des gens qui m'ont ouvert des portes à
faut
des moments donnés,
voilà.
Avec élégance d'ailleurs. Et après, ils en ont chacun eu un bénéfice, on va dire, parce que... Enfin, voilà, pour ça, la collaboration à chaque fois très bien passée.
Ils savaient mais... pourquoi ils tendaient la main aussi. Ils
peut-être pas, mais
chose.
En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir. Voilà. Après,
vous le faites
pas,
aussi
dans les femmes qui m'ont aidée, je ne sais pas.
Jacqueline Maillan, vous êtes allée la voir?
Oui, j'étais la voir quand j'étais pas encore comédienne. Et en fait, à l'époque, je racontais que je travaillais dans une radio libre, la fille mytho, donc j'avais un magnétophone.
C'est
hallucinant,
ça. Et encore un personnage.
Non, mais j'avais fait ça aussi une année au Festival d'Avignon pour rencontrer des comédiens. Je disais que j'étais dans une radio libre à Paris et j'interviewais des gens. En fait, sauf qu'ils me faisaient des interviews, mais les émissions passaient jamais parce que j'étais pas. Mais ça me permettait d'avoir
des contacts,
de rencontrer des gens.
Et de
non, c'était même pas pour
là.
C'était pas du tout même pour me placer ni rien. C'était juste pour
comprendre.
Ouais, comprendre, discuter avec les gens et tout ça.
Être là.
Et donc Jacqueline Maillan, j'avais fait le coup de sonner, parce que moi j'avais été la voir plein de fois sur scène, et j'avais toqué la porte de sa chambre, de sa loge, et elle m'avait dit mais excusez-moi, mon mari est malade, j'ai pas le temps, mais une autre fois. Enfin, elle avait pas été méchante, ni pas gentille non plus, mais plutôt simple, mais en tout cas pas méprisante en tout cas. Et voilà, et puis après...
Immense comédienne, immense
carrière.
Et après,
carrière. Je ne l'ai jamais recroisée, c'est dommage.
On a retrouvé une interview de Jacqueline Maillan, ici sur l'antenne d'Europe 1, où elle explique qu'elle aimerait jouer une tragédie sur scène, de la part de celle qui faisait rire tous les Français.
Je ne les prendrai jamais en traite, je n'ai pas le droit. On met au fronton, très gentiment, on met en rouge clignotant.
Ah ouais.
Et je ne peux pas lever un rideau sur une tragédie sans qu'ils soient prévenus. Il faut au moins qu'ils aient le courage de venir, s'ils sont au courant, ouais. Ou pas du tout, s'ils ne veulent pas.
Parce mais vous-même, que... ça vous tente.
Oui, je dois vous dire que tout me tente, tout me tente. Mais je n'ai aucun projet dans ce sens-là, je vous le dis tout de suite. Mais puisqu'on parle théâtre en général, je veux bien essayer de jouer une tragédie, mais une vraie alors. Quelque chose de très dur, qui ne laisse pas passer l'ombre d'un tic.
Vous voudriez jouer une tragédie ?
Non, pas du tout.
Un Romanov ?
Non, je ne suis pas bonne en plus là-dedans. Par contre, ce que je fais dans mon spectacle, maintenant, j'ai des petits moments d'émotion. Les gens ont les larmes aux yeux, mais ça dure... 30 secondes sur 1h40, mais j'aime bien que les gens me disent qu'il y a des moments où je les ai fait pleurer. Mais c'est 30 secondes, quoi.
Expliquez-moi cette photographie que nous allons poster sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où vous êtes d'ailleurs très présente aussi, avec le hashtag E1Nikos. De qui s'agit-il ? Je vous reconnais sur la photo. Vous avez quoi ici sur la photo ? Une photo en noir et blanc, 2-3 ans. Vous êtes Mimi, on vous reconnaît tout de suite. C'est la même patte.
Avec mon papa.
Avec votre papa. Papa, il a un petit col mao, ouvert.
En Inde, ici, parce qu'il était un petit peu baba cool.
Avec des lunettes, et il vous regarde avec fierté. Et cette photo, elle est importante pour vous, mais pour quelle raison ?
Parce que je trouve qu'il y a toute la connivence... entre moi et mon père, quoi. Il y a la connivence.
Un jeune papa.
Je suis née, il avait 29 ans, donc là, il doit avoir 32 ans sur la photo. Et on a les mêmes yeux, vous voyez, il y a une espèce de malice, d'intelligence, de rapidité. J'avais une grande vénération pour mon père, quoi.
Vous gardez quoi de votre papa ? Ce qui est en vous, Anne Romanov ?
Alors, certainement une force de combat, parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'est battu, il est né. Parents juifs émigrés, et après il a fait fortune dans les affaires, mais voilà, il s'était pas du tout gagné au départ. Il s'est construit, c'est quand même un self-made man. Voilà, c'était un côté, tout était possible. Comme il était fils d'émigrés, j'étais pas dans un cadre fermé, c'est-à-dire tu veux faire quoi. Il m'avait dit, tu te donnes jusqu'à quel âge pour échouer, ce qui n'est pas très positif.
Mais drôle.
non, à l'époque, quand on a 13 ans, 15 ans, tu veux être comédienne, tu te donnes jusqu'à quel âge pour échouer. Je sais pas, j'avais dit 22 ans. Je dis, putain, à 22 ans, si j'ai rien fait, j'ai fait autre chose. J'ai réussi à 22 ans, en fait. Ou j'avais dit 25 ans, d'ailleurs, je crois. J'avais pris 3 ans de marge. Mais c'est vrai, en tout cas, petite, je voulais vraiment qu'il soit fier de moi. Et j'ai lu très vite plein de livres. Donc je me souviens que, je sais pas, quand j'ai commencé à lire, moi, j'ai lu à 5 ans. Et donc, il me ramenait. Le week-end, il venait en Normandie, il ramenait des bouquins, des bibliothèques roses, vertes, et moi je les lisais, j'avais une espèce de soif de la... Faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écran, mais j'avais une soif, je lisais. Et donc, il me ramenait des livres, il y avait une espèce comme ça de... Et je voulais qu'il soit... Là, j'étais vraiment pour qu'il soit fier de moi. Après, j'aimais lire, mais il y avait ça quand même.
Je n'ai pas connu votre père, paix à son âme, mais ce que je vois sur cette photographie, que nous allons poster avec le hashtag Anico sur Twitter, c'est de la pudeur et une grande fierté. Papa Outé Stromae, c'est votre choix, Anne Romanov, sur Europe 1.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché ? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? We'll be right back.
Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
Papa outé, le tube de Stromae, le choix musical de notre invité Anne Romanoff, qui était notre invité sur Europe 1. Et même si on est de la même maison radiophonique, même si on se croise depuis pas mal d'années maintenant, ma chère Anne, vous redécouvrir à travers vos témoignages, à travers des choses de la vie, ni people, ni faux buzz, juste des choses de la vie, m'a réjoui. Je pense que nos auditeurs ont été contents aussi et ils peuvent vous retrouver dans cet ouvrage très drôle, Best of Romanoff. Merci d'avoir été avec
Merci
nous,
à
Anne
vous.
Romanoff. Merci Anne.